Deuxième partie. La Dame d'Ombre. Chapitre 1. Detta et Odetta. Dépouillé du jargon, voici ce qu'a dit Adler en substance. Le schizophrène idéal, en admettant qu'un tel individu existe, serait un homme ou une femme qui non seulement ne serait pas conscient de ça ou de ses autres personnalités, mais qui n'aurait même pas l'impression que quelque chose cloche dans sa vie. Dommage qu'Adler n'ait jamais connu Detta Walker et Odetta Holmes. 1. Dernier pistolero, dit Andrew. Il y avait un bout de temps qu'il parlait, mais avec Andrew, c'était toujours ainsi, et Odetta avait pris l'habitude de laisser les mots ruisseler à la périphérie de sa conscience, comme quand on prend sa douche et qu'on laisse couler l'eau chaude sur la figure et les cheveux. Mais ces mots-là, précisément, firent plus qu'attirer son attention. Ils la piquèrent comme une épine. « Pardon ?»« Oh, rien qu'un article dans le journal, » dit Andrew. « Je ne sais pas de qui, je n'ai pas pensé à regarder. Sans doute un de ces gars dans la politique. Et probable que son nom vous dirait quelque chose, Miss Holmes. Faut dire que je l'aimais, et que j'ai pleuré le soir où il a été élu. » Elle sourit, émue à son corps défendant. Andrew disait que son bavardage ininterrompu était quelque chose de plus fort que lui, dont il n'était pas responsable, que c'était son atavisme irlandais qui ressortait, et la plupart du temps, c'était effectivement sans importance. Rien qu'un bruit de fond, des claquements de langue à propos de parents et d'amis qu'elle ne connaîtrait jamais, un vague brouet d'opinions politiques, des révélations scientifiques farfelues glanées à diverses sources, uniformément farfelues. Andrew était entre autres fermement convaincu de l'existence des soucoupes volantes qu'il appelait des ovnits. Mais là, ce qu'il venait de dire l'avait ému, parce qu'elle aussi avait pleuré au soir de l'élection. « Mais je n'ai pas pleuré quand ce fils de pute, excusez mon latin, Miss Holmes, quand ce fils de pute d'Oswald l'a assassiné. Et je n'ai pas pleuré depuis, et ça fait... combien déjà ? 2 mois ? 3 mois et 2 jours, songea-t-elle. » Mais elle répondit « Oui, quelque chose comme ça. » Andrew hocha la tête. « Donc, hier, j'ai lu l'article, ça devait être dans le Daily News, au sujet de Johnson, qui allait sans doute faire du bon boulot, mais que ça ne serait pas pareil. Le gars disait que l'Amérique venait d'assister au passage du dernier pistolero du monde. « À mon avis, John Kennedy n'était pas du tout ça, » dit Odetta. Et si sa voix fut plus âpre qu'à l'accoutumée, elle dut l'être, car dans le rétroviseur, Odetta vit Andrew plisser des yeux surpris. Plus un froncement de sourcils, d'ailleurs, qu'un plissement d'yeux. C'était que cette remarque aussi l'avait touchée. Absurde, mais vrai. Il y avait dans cette citation d'un article de journal « L'Amérique vient d'assister au passage du dernier pistolero du monde » quelque chose qui éveillait en elle de profondes résonances. C'était répugnant, parfaitement inexact. John Kennedy avait été un homme de paix et n'avait rien eu d'un bagarreur du style Billy the Kid, dans la lignée duquel se plaçait plus un Goldwater. Mais, sans qu'elle sache pourquoi, cela lui avait donné la chair de poule. Bref, le type disait qu'on n'allait pas être à court de maniaque de la gâchette, poursuivit Andrew, posant sur elle des petits regards inquiets dans le rétroviseur. Il a parlé de Jack Ruby et de Castro et de son pote à Haïti. Duvalier, dit-elle. Papa Doc. Oui, lui et Diem aussi. Les frères Diem sont morts. Bon, il disait que John Kennedy n'avait pas été pareil, voilà tout. Qu'il n'aurait pas hésité à dégainer, mais seulement si quelqu'un de plus faible avait eu besoin de lui pour dégainer à sa place, et seulement dans l'impossibilité de faire autrement. Selon lui, Kennedy avait assez de jugeote pour savoir que parler n'amène parfois rien de bon, pour savoir que quand un chien a la rage, il faut l'abattre. Ses yeux continuaient de la surveiller, pleins d'appréhension. « Cela dit, c'est simplement un article que j'ai lu. » La limousine remontait maintenant la 5e avenue, glissant vers Central Park West. L'emblème de la Cadillac à la pointe du capot fendait l'air glacial de février. « Oui, » fit Odetta d'une voix très douce. Et la tension se relâcha quelque peu dans le regard d'Andrew. « Je comprends. Je suis pas vraiment d'accord, mais je comprends. » « Menteuse !» fit une voix intérieure, une voix qu'elle était loin d'entendre pour la première fois, au point d'avoir un nom pour la désigner. C'était la voix de l'aiguillon. « Tu comprends, on ne peut mieux et tu es totalement d'accord. Tu peux mentir à Andrew si tu estimes que c'est nécessaire, mais de grâce, ne va pas te mentir à toi-même. » Toutefois, cela suscitait les protestations horrifiées d'une part de son être. Dans un monde qui s'était transformé en baril de poudre nucléaire sur lequel était assis près d'un milliard d'hommes, voir chez les flingueurs une différence entre bon et méchant était une erreur, d'envergure suicidaire, peut-être. Il y avait trop de mains tremblantes pour tenir la flamme d'une allumette à côté de trop de mèches. Ce monde n'était pas fait pour les pistoleros. S'ils avaient eu leur époque, elle était passée. L'était-elle ? Elle ferma les yeux quelques secondes et se massa les tempes. Elle sentait monter l'une de ses migraines. Il ne s'agissait parfois que d'une menace, telle ces barrières de nuages violacés qui s'élaborent par les chauds après-midi d'été pour se déporter ailleurs, pour aller déverser ailleurs leurs tourmentes. Elle avait néanmoins le sentiment que cette fois, l'orage allait éclater. Une véritable tempête avec tonnerre, éclairs et grêlons gros comme des balles de golf. La haie des lampadaires sur la 5e avenue semblait par trop brillante. « Comment c'était, Oxford, Miss Holmes ?» hasarda Andrew. « Humide. Février ou pas, c'était très humide. » Elle s'interrompit, s'intimant l'ordre de ne pas prononcer les mots qui s'accumulaient dans sa gorge comme de la bile, de les ravaler. Elle se montrerait inutilement brutale en les disant. Cette histoire de dernier pistolero du monde n'avait guère été qu'un tour de plus de ce moulin à paroles qu'était Andrew. Mais venant en couronnement du reste, ce fut la goutte qui fit déborder le vase, ce qu'elle n'avait pas à dire lui échappa. Sa voix resta, supposa-t-elle, aussi calme et résolue que toujours, mais elle ne fut pas dupe. Elle savait reconnaître une gaffe quand elle en entendait une. L'agent de cautionnement est arrivé très vite avec le montant. Normal, on l'avait prévenu à l'avance. N'empêche qu'ils nous ont retenus aussi longtemps qu'ils ont pu. Et moi, je me suis retenu aussi longtemps que j'ai pu, mais sur ce point, je crois qu'ils ont gagné parce que j'ai fini par faire pipi dans ma culotte. » Elle vit un nouveau tressaillement froisser les yeux d'Andrew et voulut s'arrêter. On fut incapable. « Voyez-vous, c'est ça qu'ils veulent vous faire rentrer dans le crâne. En partie, je suppose, parce que ça vous fait peur, et qu'une personne qui a peur est susceptible de ne pas redescendre les embêter dans leurs chers états du Sud. Mais je crois que la plupart d'entre eux, même les plus bouchés, ce qu'ils sont loin d'être en général, savent que, quoi qu'ils fassent, les choses finiront par changer. Et ils sautent donc sur l'occasion pour vous avilir tant qu'ils en ont encore les moyens. De vous apprendre qu'il est possible de vous avilir. » Vous avez beau jurer par Dieu le Père, par son Fils et par toute la cohorte des saints que jamais, au grand jamais, vous ne vous souillerez, s'ils vous retiennent trop longtemps, vous finissez par le faire. Ce qu'ils veulent vous inculquer, c'est que vous n'êtes qu'un animal en cage, pas plus que ça, pas mieux que ça. Alors j'ai fait pipi dans ma culotte. J'en sens encore l'odeur et celle de cette maudite cellule. Ils disent que nous descendons du singe, vous savez. Et c'est exactement ce que j'ai l'impression de sentir. Le singe. Elle vit les yeux d'Andrew dans le rétroviseur et fut désolée de ce qui s'y lisait. Parfois, l'urine n'était pas la seule chose impossible à retenir.
Navré, Miss Holmes.
Non, dit-elle, se massant de nouveau les tempes, c'est moi qui suis navré. Ce furent 3 jours plutôt éprouvants.
J'imagine,
dit-il sur un ton de vieille fille scandalisée qui la fit rire malgré elle. Mais dans l'ensemble, elle ne riait pas. Elle avait cru savoir dans quoi elle se lançait, avoir pleinement mesuré l'horreur que ça pouvait être. Et elle s'était lourdement trompée.
« Plutôt éprouvant. Bon, c'était une façon de décrire ces 3 jours à Oxford, Mississippi.
Une autre aurait pu être d'en parler comme d'une courte saison en enfer. Mais il y avait certaines choses impossibles à dire, que la mort même n'aurait pu vous arracher. » À moins d'avoir à en témoigner devant le trône de Dieu, le Père Tout-Puissant, là où, supposait-elle, même les vérités qui déclenchent des tempêtes dans cette étrange gelée grise qu'on avait entre les oreilles, gelée grise que les savants prétendaient dépourvue de nerfs, et si ça n'était pas à se tordre de rire, elle ne voyait pas ce qui pouvait l'être, devait être avouée. Ce que je veux, c'est simplement rentrer à la maison, prendre un bain, prendre un bain, prendre un bain, dormir, dormir, dormir. Après, je pense être fraîche comme une rose.
Sûr, comme une rose.
Andrew avait quelque chose à se faire pardonner. Et cet écho était la meilleure tentative d'excuse qu'il pouvait produire. En outre, il ne voulait pas prendre le risque de pousser plus loin la conversation. Le trajet se poursuivit donc dans un inhabituel silence jusqu'à l'immeuble victorien dont la masse grise occupait l'angle de la 5e avenue et de Central Park South. Un immeuble des plus sélects qui faisait d'elle quelqu'un de bien en vue, supposait Odette, consciente qu'il y avait là, dans ses appartements huppés, des gens qui pourtant ne lui auraient jamais adressé la parole sauf cas de force majeure. Consciente, oui, mais s'en fichant comme de l'an 40. Par ailleurs, elle les dominait, ce qu'il savait pertinemment. Il lui était plus d'une fois venu à l'esprit que certains d'entre eux devaient se sentir atrocement humiliés à l'idée qu'une négresse habitait l'appartement en terrasse de ce vénérable et splendide immeuble victorien où, en un autre temps, les seules mains noires admises avaient été gantées de blanc ou, à la rigueur, du fin cuir noir des chauffeurs de maître. Humiliation qu'elle espérait réellement atroce, se reprochant de se montrer méchante et animée de sentiments bien peu chrétiens, mais c'était plus fort qu'elle. De même qu'elle n'avait pu réprimer le jet souillant la soie fine de ses dessous français, elle ne pouvait pas davantage empêcher cet autre débordement de pisse. C'était mesquin, totalement indigne d'une chrétienne, et presque aussi grave, non pire pour autant que le mouvement était concerné, c'était improductif. Ils allaient conquérir les droits qu'il leur fallait conquérir, et probablement cette année. Johnson, pénétré de l'héritage que lui avait laissé entre les mains le président assassiné, et souhaitant peut-être planter un autre clou dans le cercueil de Barry Goldwater, allait faire plus que veiller à la mise en place des droits civiques. Il allait, si nécessaire, imposer l'adoption de la loi électorale. Il était donc essentiel de réduire les frictions. Il y avait encore du pain sur la planche. Loin de faciliter l'évolution des choses, la haine ne pouvait que l'entraver. Mais, parfois, on n'en continuait pas moins de haïr. Telle était l'autre leçon que venait de lui donner Oxford Town. 2. Detta Walker n'avait strictement aucun intérêt pour le mouvement et occupait un logement nettement plus modeste. Elle vivait dans le grenier d'un immeuble lépreux de Greenwich Village. Odetta ignorait tout de la soupente et Detta tout du penthouse, ce qui, pour soupçonner quelque anomalie à cette répartition des choses, ne laissait que le chauffeur Andrew Finney. Il était entré au service du père d'Odetta quand elle avait 14 ans, et que Detta Walker n'existait pour ainsi dire pas. De temps à autre, Odetta disparaissait. Lesquelles disparitions pouvaient être l'affaire de quelques heures ou de plusieurs jours. L'été dernier, l'une d'elles s'était prolongée 3 semaines, et un soir, vers 8 heures, Andrew avait été sur le point d'alerter la police quand Odetta l'avait appelé pour lui demander de passer la chercher avec la voiture le lendemain matin, à 10 heures. Elle comptait faire quelques achats. Il avait eu envie de hurler dans l'appareil. « Miss Holmes, où étiez-vous ?» Mais il avait déjà essayé de lui poser la question dans des circonstances similaires et n'avait obtenu en réponse qu'un regard éberlué, sincèrement éberlué. Il n'y avait pas de doute à cela. Cette fois, donc, elle lui aurait probablement dit « Mais voyons, Andrew, ici même, ne m'avez-vous pas conduite chaque jour en 2 ou 3 endroits? Votre cervelle ne commencerait-elle pas, par hasard, à tourner à la sauce blanche ?» Puis elle aurait éclaté de rire, et pour peu qu'elle se fût sentie particulièrement en forme, ce qui, à la suite de ses disparitions, semblait être souvent le cas, lui aurait pincé la joue. « Très bien, Miss Holmes, » s'était-il contenté de répondre. « À 10 heures. » Il avait raccroché, fermé les yeux, remercié d'une courte prière la très sainte Vierge Marie pour le retour de Miss Holmes, saine et sauve, puis avait redécroché le téléphone et composé le numéro de Howard, le concierge du luxueux immeuble victorien donnant sur Central Park. « À quelle heure est-elle rentrée ?»« Il y a 20 minutes à peine, » lui apprit Howard. Qui est-ce qui l'a ramené ?
Je sais pas. Tu sais comment ça se passe ?
C'est toujours une voiture différente. Des fois, il se garde de l'autre côté de l'immeuble, et je ne sais même pas qu'elle est de retour avant d'entendre la sonnette, de regarder dehors et de voir que c'est elle. Howard marqua une pause, puis ajouta « Elle a un sacré bleu sur la joue. » Howard ne s'était pas trompé. Elle avait à coup sûr un sacré bleu sur la joue. Il avait meilleure apparence maintenant, mais Andrew n'aimait pas trop penser à ce qu'il devait avoir été à l'origine. Miss Holmes venait d'émerger à 10 heures précises de son immeuble, vêtue d'une robe de soie aux bretelles ultra fines. On était fin juillet, le bleu tirant déjà sur le jaune. Elle n'avait guère apporté de soin à le dissimuler sous son maquillage, comme si elle était consciente qu'un plâtrage trop épais ne ferait qu'attirer encore plus l'attention. « Comment vous êtes-vous fait ça, Miss Holmes ? » lui demanda-t-il. Elle eut un rire joyeux. « Vous savez comment je suis, Andrew ? Maladroite, comme toujours. Ma main glissait sur la poignée, hier, alors que je m'extirpais de la baignoire, pressée d'aller voir les informations. Je suis tombé, me suis cogné juste sous l'œil. » Ce furent les yeux d'Andrew que, sur ce, elle sonda. « Vous allez me parler de docteur et d'examen ? Non. Inutile de répondre, après toutes ces années, je lis en vous comme dans un livre. Alors tenez-vous le pour dit, je n'irai pas consulter, je me sens on ne peut mieux. Allez, Andrew, en route. J'ai l'intention d'acheter la moitié de chez Saxe, la totalité de Gimmels, et de prendre dans l'intervalle un échantillon de tout ce qu'il y a sur la carte des 4 saisons. Bien, Miss Holmes. Et il sourit. Un sourire forcé. Et cela n'avait rien de facile. Ce bleu ne datait pas d'hier, mais d'une semaine au moins. D'autant qu'il avait une autre raison de douter de son histoire. Tous les soirs de la semaine dernière, il l'avait appelée à 7 heures, sachant que, s'il avait une chance de la trouver chez elle, c'était au moment du journal de Huntley Brinkley, vu qu'elle y était accro. Il avait téléphoné chaque soir, sauf hier. Hier, il y était allé, avait emprunté le pass à Howard. Car, soir après soir, la conviction n'avait cessé de grandir en lui qu'elle avait eu exactement le genre d'accident qu'elle venait de décrire. Sauf qu'au lieu de récolter un bleu ou une fracture, elle était morte, toute seule, et que là-haut, son cadavre l'attendait. Il s'était introduit dans l'appartement, le cœur battant à tout rompre, se sentant comme un chat dans une pièce obscure au sol tapissé de cordes à piano. À ceci près, il n'y avait rien trouvé justifiant son angoisse. Un beurrier était resté sur le plan de travail de la cuisine, et quoique couvert, son contenu avait eu le temps de développer une belle récolte de moisissures. Arrivé à 7h10, Andrew était reparti au car. Sa rapide inspection de l'appartement n'avait pas négligé la salle de bain. La baignoire était sèche, les serviettes proprement, voire austèrement rangées. Les nombreuses poignées d'acier chromé que comportait la pièce révélaient par leur éclat qu'elle s'était vierge d'eau. L'accident décrit n'avait pu se produire. Mais il n'en avait pas déduit pour autant qu'elle mentait. Elle avait été la première, en l'occurrence la seule, à croire à son histoire. Pour l'heure, il jetait un nouveau coup d'œil dans le rétroviseur et la voyait se masser les tempes du bout des doigts. Ça ne lui disait rien qui vaille. Il l'avait trop souvent vu faire ce geste à la veille d'une disparition. 3. Andrew laissa le moteur tourner pour qu'il pût bénéficier du chauffage. Puis il sortit ouvrir le coffre. La vue des 2 valises lui arracha une nouvelle crispation des muscles du visage. On aurait dit que des fous furieux, dont la force devait être inversement proportionnelle à la taille de leur cerveau, les avaient longuement piétinés, leur infligeant ce qu'il n'osait infliger à Miss Holmes, ce qu'il lui aurait infligé à lui, par exemple, s'il s'était trouvé là. Or, s'il s'était retenu, et pas seulement parce qu'il s'agissait d'une femme, avant tout, c'était une négresse, une arrogante négresse du Nord, qui était venue foutre sa merde là où elle n'avait pas à la foutre, et à leurs yeux, probablement, une femme comme ça n'avait que ce qu'elle méritait. Mais c'était également une négresse riche. Elle était presque aussi connue du grand public américain que Medgar Evers ou Martin Luther King. Et sa tronche de négresse pleine aux as avait fait la couverture de Times Magazine. Alors pouvait-on molester quelqu'un de ce genre puis s'en sortir en disant « Ah non, monsieur, sûr que dans le secteur on n'a vu personne correspondant à votre description. Pas vrai, les gars ?» Sûr que ça aurait promis d'être coton. et tout aussi coton en l'occurrence, de se décider à porter la main sur une femme qui était l'unique héritière des industries dentaires Holmes, quand les États du Sud ne comptaient pas moins de 12 usines Holmes, dont une dans le comté voisin de celui d'Oxford Town. Ils avaient en conséquence fait à ses valises ce qu'ils n'osaient lui faire à elle. Andrew contempla ces muets indices du séjour de sa patronne à Oxford, submergé par la honte, la colère et l'amour, émotion muette à l'égal des plaies et bosses de ses bagages qui étaient partis pimpants pour revenir rompus. Il les fixa, momentanément paralysé, un petit panache s'arrondissant devant ses lèvres dans l'air glacé. Howard accourait pour l'aider, mais il prolongea encore un peu sa pause avant de se saisir des valises. « Qui êtes-vous, Miss Holmes? Qui êtes-vous en réalité? Où allez-vous parfois? Et qui faites-vous qui vous paraisse être si mal que vous ayez, même pour vous-même, à vous inventer un faux emploi de ces heures et de ces jours manquants ?» Et une autre question se forma dans son esprit juste avant qu'Howard n'arrivât à sa hauteur, une question d'une étrange pertinence. « Où est le reste de vous ?»
Tu vas me faire le plaisir de penser à autre chose, Andrew Finney. Si quelqu'un par ici se doit de s'adonner à ce genre de cogitation, c'est Miss Holmes. Et puisqu'elle ne le fait pas, tu n'as pas à le faire.
Il sortit les valises du coffre et les tendit à Howard, qui, à mi-voix, lui demanda
« Elle va bien ?»«
Je crois, » répondit Andrew tout aussi discrètement. « Fatigué, c'est tout. Complètement vanné. »
Howard hocha la tête, prit les valises meurtries et retourna vers l'immeuble, marquant un bref temps d'arrêt pour porter deux doigts à sa casquette, saluer avec réserve et respect Odetta Holmes, à peine visible derrière les vitres fumées. Après son départ, Andrew sortit du fond du coffre un appareil d'acier inoxydable qu'il entreprit de déplier. C'était un fauteuil roulant. Depuis le 19 août 1959, quelques 5 ans et 6 mois auparavant, Odetta Holmes avait dans son corps, au-dessous des genoux, un vide comparable à celui de son existence. 4. Avant l'épisode du métro, Teda Walker n'avait connu que de rares moments de conscience, lesquels étaient comme ces îles coralliennes qui donnent l'impression d'être isolées, mais sont en fait les vertèbres d'une longue dorsale presque entièrement sous-marine. Odetta ne soupçonnait pas du tout l'existence de Detta, ni Detta qu'il y eût dans la sienne une personne telle qu'Odetta. Mais Detta au moins comprenait clairement que quelque chose n'allait pas, que quelqu'un tripatouillait sa vie. Si l'imagination d'Odetta brodait des romans sur toutes sortes d'événements mythiques censés s'être déroulés pendant que Detta contrôlait son corps, Detta n'était pas si douée. Elle croyait se rappeler des choses, certaines choses en tout cas, mais la plupart du temps, elle ne se souvenait de rien. Au moins, était-elle partiellement consciente d'absence. Elle se souvenait du plat en porcelaine. Oui, elle s'en souvenait. Se revoyait le glissant dans la poche de sa robe en surveillant par-dessus son épaule si la femme en bleu n'était pas en train de l'espionner. Il lui fallait s'en assurer, car le plat en porcelaine appartenait à la femme en bleu. Ce plat était, Detta le comprenait de quelque vague manière, pour les grandes occasions. C'était pour ça qu'elle le prenait. Elle se rappelait l'avoir pris et emporté dans un endroit dont elle connaissait, sans pour autant savoir comment, le nom. Les Drawers, un trou jonché d'ordures où de la fumée flottait en permanence et où elle avait un jour vu brûler un bébé à la peau en matière plastique. Elle se revoyait poser soigneusement le plat par terre pour s'apprêter à marcher dessus, s'interrompre, retirer sa petite culotte en coton, la mettre dans la poche dont elle avait sorti le plat, puis soigneusement glisser l'index de sa main gauche, soigneusement contre la fente dans son corps, là où Dieu, le vieux con, l'avait mal jointe, comme il avait mal joint toutes les autres filles et femmes. Mais il devait y avoir quelque chose de bien fait à cet endroit, parce qu'elle se souvenait
de la décharge. Se revoyer voulant appuyer, se revoyer n'appuyant pas, se rappeler le délice d'avoir son sexe nu, sans la petite culotte en coton entre lui et le monde. Et elle n'avait pas appuyé, tant que son soulier n'avait pas appuyé. Son soulier verni noir, tant que son soulier n'avait pas appuyé sur le plat, puis elle avait appuyé sur la fente avec son doigt, comme elle appuyait avec son pied sur le plat pour les grandes occasions de la femme en bleu. Elle revoyait le soulier verni couvrir les fins filets bleus sur le bord du plat, retrouvait la sensation d'appuyer, oui, la sensation d'appuyer dans les drawers, d'appuyer avec le doigt et avec le pied, se souvenait de la délicieuse promesse du doigt et de la fente, se rappelait que quand le plat avait craqué avec un petit bruit sec, acide, un plaisir pareillement acide était remonté dans ses entrailles, était remonté comme une flèche dans cette fente. Elle se rappelait le cri qui avait alors explosé sur ses lèvres, un cri rauque et déplaisant, celui d'un corbeau s'enfuyant, paniqué d'un champ de maïs. Elle se revoyait fixant d'un œil terne les débris du plat, puis tirant lentement de la poche de sa robe la culotte de coton blanc pour la remettre, y renfiler d'abord un premier soulier verni, puis y renfiler l'autre, la remonter sur ses jambes, dépasser les genoux, la croûte sur la gauche, presque prête à tomber, à révéler la neuve et rose peau de bébé qui s'était formée dessous. Oui, elle en avait un souvenir si net que ce pouvait n'être pas arrivé une semaine auparavant, ni même hier, pas plus loin même, que dans la minute qui avait précédé. Elle allait jusqu'à se rappeler comment l'élastique de la ceinture avait atteint l'ourlet de sa robe, le net contraste du coton blanc sur la peau brune, comme de la crème, oui, c'était ça, comme l'instant où la crème versée du pot n'a pas encore touché le café, la texture, la culotte disparaissant à demi, sous l'ourlet de la robe. Sauf que maintenant la robe était rouille et que la culotte ne montait plus. Elle descendait. Elle était toujours blanche, mais plus en coton. C'était du nylon, du voile de nylon, à 4 sous. Et elle se revoyait l'enlevant, la revoyait chatoyée sur le tapis de la 46 Dodge DeSoto. Oui, comme elle était blanche, comme elle faisait Camelot. Rien d'un sous chic, que du sexy toc, du sexy pas cher, comme la fille. Et c'était bon d'être pas cher, c'était bon d'être à vendre, d'être sur le trottoir, pas même comme une pute, mais comme une truie qui aime ça. Elle ne revoyait pas de plat rond en porcelaine blanche, mais ronde et blanche, la bouille d'un garçon, d'un genou en java, ahuri par l'alcool et la surprise. Il n'était pas en porcelaine, mais sa bouille était ronde comme l'avait été le plat de la femme en bleu, et il avait sur les joues des filets qui ne paraissaient pas moins bleus que ceux sur le bord du plat pour les grandes occasions. Mais c'était seulement à cause du néon qui était rouge, de l'enseigne au néon de la taverne en bordure de route, qui, dans le noir, avait fait paraître bleu les filets de sang sur les joues du garçon, là où elle l'avait griffé. Et il avait dit « Pourquoi t'as, pourquoi t'as, pourquoi, pourquoi t'as ?» Puis il avait baissé la vitre et passé la tête dehors pour vomir, et elle se rappelait la chanson sur le jukebox. Dolly Stevens, débitant son histoire de chaussures jaunes à lacets roses et de bandes violettes sur son grand palama, réentendait le bruit du gars qui vomissait comme du gravier tournant dans une bétonneuse. On revoyait le sexe, quelques instants auparavant, point d'exclamation livide jaillissant de l'enchevêtrement crépus de la toison pubienne, maintenant tout mou, point d'interrogation. Elle se rappelait le bruit de bétonneuse que le garçon faisait en vomissant, qui avait cessé, puis qui avait repris, tandis qu'elle se disait « Bon, je crois qu'il n'en a pas encore assez versé pour remplir cette tranchée de fondation. » Et elle, riant, appuyant son index, équipée désormais d'un ongle de longueur et de forme adéquate contre son propre sexe qui était nu, mais plus vraiment puisque envahi par le foisonnement de sa propre toison pubienne et retrouvant ce même petit craquement acide en elle, toujours autant souffrance que plaisir, mais mieux, tellement mieux que rien du tout. Puis le gars à tâtons avait de nouveau cherché à la saisir et lui avait dit d'une voix qui se brisait, d'une voix blessée, « Oh, saloperie de négresse, Tandis qu'elle continuait de rire, l'avait repoussé sans difficulté, avait ramassé sa culotte, ouvert la portière et senti l'ultime tâtonnement des doigts du gars dans le dos de son chemisier, alors qu'elle s'élançait dans la nuit de mai, courait dans les premières senteurs de chèvrefeuille, enjambait les bégaiements rose-rouge du néon sur le gravier d'un parking d'après-guerre, fourrant la petite culotte non dans la poche de sa robe, mais dans le joyeux fatras de produits de beauté d'un sac à main d'adolescente, qu'elle courait, que la lumière tressautait, puisqu'elle avait 23 ans, et que ce n'était plus une culotte qu'elle mettait dans son sac, mais un foulard en rayonne, et qu'elle l'y glissait négligemment en passant devant un rayon dans la boutique inventive de Macy's, un foulard qui à ce jour coûtait 1,99 $. De la camelote. De la camelote comme la culotte en voile de nylon. De la camelote comme elle. Le corps qu'elle habitait était celui d'une femme qui avait hérité des millions, mais ce fait, n'étant pas connu, n'avait aucune importance. Le foulard était blanc, avec un liseré bleu, et le petit craquement de plaisir acide fut le même alors qu'à l'arrière du taxi, oublieuse du chauffeur. Elle prenait le foulard d'une main et le regardait fixement, tandis que l'autre main remontait sous la robe de tweed, se glissait sous le bord de la culotte blanche, et qu'un long doigt sombre s'attaquait à la tâche qui réclamait d'être accomplie d'une seule et impitoyable caresse. De temps à autre, donc, elle se demandait distraitement où elle était quand elle n'était pas ici. Mais la plupart du temps, ses envies étaient trop soudaines, trop urgentes, pour autoriser plus ample méditation. Et elle s'acquittait simplement de ce dont il fallait s'acquitter, faisait ce qui avait besoin d'être fait. Roland aurait compris.